Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, bonjour.
Salut.
Ça va, Manuel?
Ça va, et vous?
C'est pas possible, il y a
Oui, pas trop dur de choisir un sujet, Manuel?
Non, ça va.
Si les gens savent pas pourquoi Manuel met autant de temps à répondre aux questions, c'est parce qu'en fait, il est à l'autre bout du monde. Comme il est multimilliardaire, il fait croire aux gens qu'il est à Paris, mais en fait, il est très loin. Même nous, on sait pas où il est dans une destination gardée secrète.
C'est vrai.
Non, aujourd'hui, je voulais vous parler de discipline extrême.
Ok, ça me parle pas du tout.
Voilà. Parce que on oppose souvent ces deux visions. La théorie du hustler, qui est focusée sur le travail d'un côté, et la théorie de la discipline, qui est focusée sur la méthode de l'autre. Et pour lancer le débat, je voulais vous lire ces notes qui disent en gros que la théorie du hustler valorise l'agilité, l'innovation et la prise de risque, mettant l'accent sur l'exploitation des opportunités et l'adaptabilité. Elle encourage à bouger rapidement et à saisir les chances avec audace. Ça me rappelle quelqu'un. Par opposition, la discipline extrême se concentre sur la rigueur, la planification à long terme, le contrôle de soi. Elle privilégie constance, patience, résistance face aux distractions pour atteindre des objectifs prédéfinis. Alors que le hustler mise sur la flexibilité et l'opportunisme, la discipline extrême repose, elle, sur la prévisibilité et l'autodiscipline. Mmh. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a une grande famille de pensée, surtout sur les réseaux sociaux, et ouais. Je vois une certaine génération d'entrepreneurs élevés. Je vois Léo va me faire les gros yeux si je commence à citer des gens, mais élevés, à, on va dire, des entrepreneurs charismatiques qui disent qu'il suffit de travailler plus, que, en gros, c'est toute la théorie du outworking. Je vais travailler plus que toi. Et ça commence sincèrement à me péter les couilles parce que je trouve ça d'une bêtise, mais profonde. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut rien foutre, mais c'est justement ça le problème. C'est que la majorité de ces gens-là ont tendance à dire que si tu travailles moins, tu ne fous rien.
Ouais. Donc ça, c'est la théorie du hustling. Oui. Pour moi, c'est un truc qui n'existe pas. Pour moi, ce ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des influenceurs. J'ai l'impression que la plupart des gens qui vont te parler de ça, qui vont te dire il faut travailler le plus longtemps possible, si tu rentres chez toi pour voir ta femme le soir, t'es vraiment une merde, il faut que tu travailles jusqu'à 23h et c'est la seule chose qui te permettra d'être plus successful que tes concurrents. J'ai l'impression que ce ne sont que des influenceurs qui, en général, n'ont pas de très grosses entreprises.
Bah moi, je trouve fou d'opposer les deux. Parce que, par exemple, vous m'avez connu très jeune. J'ai été dans ce truc-là de dire « Si tu veux quelque chose, il suffit de bouger ton couille pour travailler. » Aujourd'hui, je suis plus dans le « Je saisis des opportunités, je prends plus de temps pour moi, je discute aussi avec beaucoup plus de gens, je suis moins focus que sur un truc. » Et pour autant, ça marche mieux qu'avant. Mais j'ai quand même le sentiment que c'est un mixte des deux. Y en a certains qui vont te dire oui, il faut du travail et tout. Par exemple, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui je serai à la même place, je ferai la même chose que si je n'avais pas sacrifié mon adolescence, que j'avais vu mes potes tous les soirs, que je serais allé prendre des bières, que le week-end j'étais avec ma famille, etc. C'est une vraie question que je me pose aujourd'hui. Je me dis, est-ce que j'ai sacrifié à juste titre mon adolescence ou est-ce qu'en fait j'ai été con parce que j'aurais pu faire les deux, c'était juste un problème d'organisation?
Je vois que tu brûles d'envie de répondre.
Oui.
Mais je vais juste faire une incise 2 secondes. Et avant de parler de sacrifice, faudrait déjà s'assurer que c'en est un. Parce que tout le monde dit « Ah, j'ai sacrifié mes jeunes années, mes machins... » Et t'en aurais fait
non,
quoi?
Non, c'était un plaisir pour moi. J'en avais rien à foutre d'aller boire des bières. C'était un plaisir que de travailler, tu vois. Ah oui, non, rien du tout.
Pour moi, il est là le problème. C'est que la nuance existe. C'est pas soit tu branles rien et tu vas boire des bières tous les jours... soit tu travailles énormément. Tu peux travailler énormément et boire des bières avec des potes. Et effectivement, c'était pas ton... tu faisais pas ça tous les jours, mais je t'ai vu plusieurs fois, Romain, en train de boire des bières avec moi, etc. Enfin, t'as pas non plus passé 10 ans enfermé dans une cave.
Non, c'est vrai.
La différence, c'est que
c'est l'indifférence.
Tu as travaillé beaucoup, ça c'est une certitude. En revanche, je crois que le hustling, il était surtout dans ton discours et pas tellement dans la réalité. Parce qu'en fait, même si t'as beaucoup travaillé, bah, t'as quand même pris du temps pour toi, t'as quand même pris du temps pour les gens qui t'entourent. Il y a plein de trucs qui sont toujours restés très importants pour toi en dehors du travail. Donc je crois que t'as jamais vraiment appliqué cette culture-là, que peut-être tu y croyais, mais entre ce à quoi on croit et ce qu'on fait réellement, il y a toujours un gap. Ouais. Mais pour moi, tu l'as jamais vraiment appliqué, cette culture qui est malsaine. Hein.
C'est surtout que je comparais, en fait, je comparais avec les gens autour de moi. Et c'est vrai que quand je me disais bah, toi, tu travailles beaucoup, tu sacrifies beaucoup de choses, c'est parce que autour de moi, les gens que je n'appréciais pas forcément et qui avaient mon âge, ils se mettaient des cuites tous les week-ends, ils faisaient pas attention à leur portefeuille et ils claquaient de la thune tout le temps. Il n'y avait pas du tout cette même mentalité. Donc, c'est vrai que quand moi, j'allais boire 2 bières dans la semaine, qu'on partait, j'en sais rien, faire un salon Léo et puis qu'on prenait du temps pour nous un soir, bah, j'avais l'impression que de toute façon, c'était que dalle par rapport à la moyenne des gens que j'observais.
Mais si tu te compares à ce qu'il y a de pire à tes yeux, t'as pas besoin de travailler 10 heures par jour. Hein.
Complètement.
C'est surtout mais que c'est là-dessus où j'ai changé. C'est très court terme. Ça peut pas marcher à long terme.
Ah ouais.
Alors, en fait, il y a déjà, plusieurs familles là-dedans. T'as les gens qui te vendent du braquage. Donc, ils te disent... tu vas faire un braquage sur un segment donné, un marché donné, et tu vas prendre beaucoup de réussite ou d'argent dans un laps de temps très court, et ça va être ça une réussite. Mm. Déjà, je n'ai pas cette définition-là de la réussite. Pourquoi pas ? Mais ça peut être l'objectif de quelqu'un, je ne juge pas ça. Mais
gagner au loto.
Je ne pense pas que ça soit un truc qui te nourrisse vraiment... Et du coup, je pense, et je renvoie à notre épisode sur l'argent, je pense que tu en sors pas bien.
Ouais.
T'en sors avec un syndrome vraiment d'illégitimité, peut-être imposteur, j'en sais rien. Mais en tout cas, si tu réussis, si tu fais le braquage, que tu as beaucoup travaillé, beaucoup sacrifié de trucs sur une période très courte, tu ressors éreinté, sûrement dans une forme physique assez catastrophique, sûrement un peu plus argenté qu'au début et très seul.
Et pas spécialement meilleur que les autres ?
Tu n'as pas de gloire particulière, tu as peut-être été plus malin. Mais si c'est un concours de cheat code, ce que souvent on retrouve, et je suis d'accord avec toi, dans ces discours-là qui vont beaucoup vers la facilité, en te disant trouve les astuces, je vais te vendre les tunnels de vente, machin, les trucs qui ont ces taux-là de transformation, etc., etc. Ce discours ambiant ne me plaît pas. Et c'est un discours qui ne me plaît pas parce qu'il a tendance à, en plus, devenir le discours majoritaire de l'entrepreneuriat. Mmh. Comme si entreprendre, c'était ça. Et pour moi, entreprendre, ça n'est pas ça. Mmh. C'est vraiment pas ça. Ça n'a rien de collectif, ça n'a rien de durable, ça n'a rien de long terme, ça nourrit pas de vision vraiment... à court, moyen et long terme, c'est pas sustainable, ça n'est pas épanouissant, ça n'est pas enrichissant, ça ne t'élève pas.
Et tu peux avoir le sentiment que
tu peux continuer la liste longtemps.
Épanouissant sur le moment, parce que c'est la seule chose que tu as envie de faire, ça ne sera pas pendant 20 ans. En fait.
C'est trippant.
À un moment,
mais c'est pas épanouissant.
Oui, à un moment, tu vas te rendre compte bah, qu'en fait, il y a d'autres choses dans la vie qui te plaisent parce que tu as ton expérience, parce que tu as évolué, parce que tu as atteint un certain âge où tu as d'autres envies et tu vas te dire, bah, en fait, putain, merde. Les 20 dernières années, j'ai fait que bosser, j'ai rien développé d'autre, et ça me plaît plus autant qu'avant.
Mais pourquoi j'oppose ces deux théories ? Mmh. Parce que il n'y a qu'une autre voie, qui est celle de la méthode, de la vision, de la rigueur, de la discipline, et elle n'est pas sexy. D'un côté, il y a un Happy Meal, de l'autre côté, il y a des épinards. Et t'es là, tu dois vendre des épinards. C'est pas simple.
Ouais.
Et en fait, je suis intimement persuadé que apprendre à quelqu'un à être méthodique, à comprendre les patterns de pensée, à ouvrir la voie de l'introspection, à développer des outils, à essayer de trouver ce qu'il y a de systémique dans un problème pour le résoudre de façon régulière. Et potentiellement se donner une chance d'industrialiser la réponse, donc de scaler, donc de le faire à plusieurs, donc de le faire à grande échelle, ben ça, c'est pas sexy. Ça vend pas du rêve.
Pour avoir côtoyé beaucoup des collaborateurs de Manuel, ça a été ce qui pouvait le rendre détestable. C'est l'incompréhension de certains de se dire « Mais je comprends pas pourquoi il me fait chier avec ce truc alors que ça irait 10 fois plus vite que je fasse comme ça. » Et dans la tête de Manuel, il se disait à chaque fois « Oui, mais espèce de débile, si tu fais comme ça, la prochaine fois, tu vas devoir tout refaire de zéro. Alors que si tu le fais pas comme ça, mais que c'est plus chiant parce que tu passes par ce process-là, parce que tu joues en collectif et que tu pars sur un outil qui te permet de travailler en équipe, et ben la prochaine fois, si toi t'es pas là, si t'es malade, si t'as un truc, un peu de travers ou que tu veux bosser sur autre chose, ben t'auras une équipe qui pourra le faire avec toi. Je sais que ça a été... c'est toujours compliqué en règle générale de bosser avec des gens comme ça. Bon, moi maintenant, c'est devenu une habitude. Merci Manuel. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un truc qui te traumatise. Et c'est d'ailleurs ce que me disait Manuel au début, c'est qu'il me disait... C'est fou à quel point tu es malléable dans les nouveaux process. Moi, tu me disais de faire un truc, je réfléchissais pas, j'y allais, je faisais, et puis je me disais, à la fin, je comprends pas pourquoi je le fais, mais ok, tiens, c'est cool, il y a du résultat. Mais beaucoup de gens, quand ils n'arrivent pas à avoir ce lâcher prise, bah, tu peux te dire, c'est ce que j'essaie à ma petite échelle de faire avec les 3-4 personnes avec qui on bosse tous les mois, tu vois, de leur dire, passer par Trello, passer par ces process-là et tout ça, et parfois, ils comprennent pas. Et c'est vraiment difficile de faire accepter la rigueur et le travail dans ce sens-là et pas dans le sens de bosse beaucoup tout seul dans ton coin, tu verras, tu auras plus de résultats que si tu bossais beaucoup moins en équipe avec de la rigueur et en le faisant correctement, quoi.
C'est ce qui fait que je refuse les briefs dans WhatsApp.
Ouais.
Ah ouais, parce mais ça c'est fou, mais
dans notre industrie, il faut quand même le dire,
tout le temps.
C'est la catastrophe. C'est-à-dire que il y a pas de problème de jeunisme ou je sais pas quoi, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'acteurs dans les entreprises de l'influence marketing qui sont relativement jeunes, qui ont assez peu d'expérience ou de recul professionnel et qui font des choses par instinct, qui font d'ailleurs assez peu de frontières entre les outils de leur vie personnelle et les outils de travail, tant et si bien que les données commencent à se mélanger, ce qui est déjà un problème, je pense. Et ensuite, qui utilisent des instruments de communication et de travail qui sont pas du tout adapté pour ce dont on parle, en fait. Et mon statut WhatsApp, c'est fuck WhatsApp.
C'est vrai. Et il y a un exemple qui moi, me sidère, parce que maintenant, c'est devenu une habitude, même dans plein d'autres industries, pour des auto-entrepreneurs et autres, les devis, c'est pas récurrent. Et beaucoup ne travaillent encore sans devis. Je trouve ça fou, alors que c'est une sécurité et t'en as juste par flemme parce qu'ils te disent « je vais bosser, ça va, je le connais bien » et tout ça. Ils t'envoient pas de devis et ça part de là, tu vois. C'est comment ?
Les process sont pas respectés.
Mais si on revient à l'échelle individuelle, on peut tous faire quelque chose pour essayer d'aller vers un peu plus de discipline. Moi, j'essaye de vendre cette famille-là de pensée, ce qui n'est pas toujours simple. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui disent que je suis très psychorigide, etc. etc.
Froid, pas sympathique... pas agréable, difficile à vivre,
casse-couille.
Non, ça non, ils osent pas le traiter parce qu'ils ont quand même peur des représailles, parce qu'ils savent qu'avec Manuel, c'est très très lent, très froid et très invisible. Ah d'accord, tu l'as entendu dans ta tête, oui. Ça me rassure alors Léo. Non mais voilà, en synthèse, c'est ça. Et donc moi, dans ces moments-là, j'aime bien leur dire « Ah oui, t'as raison, comme ça j'en entends encore plus.
» Mais je pense qu'à l'échelle individuelle, on peut tous se dire « Qu'est-ce que je suis en train de faire tous les jours ?» que je pourrais m'éviter de refaire demain. Et ouais, moi, je vous assure que tous les jours, quand je tape une réponse à un email, je me dis, tiens, ça serait pas un template. Ça fait quand même 3 fois qu'on me pose cette même question.
L'automatisation. Ouais.
Donc, j'ai cette espèce d'obsession à l'automatisation, ce qui fait que je me suis fait des tonnes de raccourcis, par exemple. Je vous donne un exemple qui est tout con, mais on me demande 1000 fois des calls. J'ai un raccourci clavier qui donne le lien vers mon agenda public pour que booker un call.
Et ça, vous pouvez le faire dans les réglages du Mac, hein, ou de l'iPhone.
C'est ce que j'ai fait dans les réglages du Mac pour que je puisse en hériter sur mon iPhone, sur mon iPad, etc.
Ouais.
Et donc, j'ai une séquence de lettres que je tape et grosso modo ça transforme par le texte que j'ai préétabli.
Je le fais aussi et ça change la vie effectivement. Voilà. Tu gagnes un temps, tu te rends pas compte, mais tu gagnes un temps fou et des trucs pareils.
Mais tu fais des tâches des centaines de fois par semaine que tu peux absolument automatiser. Et je pense que quand tu commences à rentrer dans cette logique de te dire comment je vais automatiser, comment je vais processer, comment je fais en sorte que le mec qui prend rendez-vous avec moi, en passant par là, il rentre automatiquement dans mon CRM et donc du coup il sera automatiquement adressé par notre communication de demain, etc. etc. Et bien en fait ça devient un jeu et tu, petit à petit, tu essayes de te dire comment je fais un maximum de choses en un minimum de temps.
Mais ça tu nous avais vachement appris la culture du funnel. Parce que souvent les équipes se disent ben moi je dois résoudre des problèmes pour mon équipe et elles ont du mal à cohabiter et à se dire non, on fait une grande équipe qui est la société, la structure, et ensuite il y a toutes plein de petites équipes qui vont bosser sur des sujets indépendamment mais qui seront reliés au même endroit. Emmanuel, tu nous as vachement, enfin je trouve, la culture du funnel, de se dire l'équipe marketing elle va se servir de ce que fait l'équipe sales va se servir de ce que fait la gestion de projet, parce que quand un projet est terminé, pourquoi tu recontactes pas est-ce que le projet était bien, est-ce que tu veux qu'on refasse quelque chose ensemble? Et pour faire ça plus facilement, bah, t'as l'équipe marketing qui, comme par hasard une semaine avant, aura envoyé un email pour dire regardez les super dernières productions qu'on a fait. Et tout ça, tout ce truc là mais ça, enfin, de mon point, enfin, pour moi, en tout cas, ça a pris des années avant que je trouve ça clair et que je me dise, mais c'est logique, tu vois.
Et je pense que tu peux pas dire aux gens, augmente ta quantité et ta densité de travail, sans limite ou presque, et tu verras, c'est comme ça que tu vas gagner la compétition. C'est pas responsable de tenir ce discours. Ça détruit l'écosystème qui est lié à notre espèce, qui a besoin de temps de repos, de temps de réflexion, qui a besoin de ne rien faire pour trouver de nouvelles idées,
ouais.
Qui a besoin de s'évader, de voyager, de changer presque physiologiquement de climat, d'endroit, de machin, de trucs. Et ça, ce sont des limites qui sont liées à notre espèce. Et on peut en discuter, mais ok, on peut aller chercher des extra miles là où il y en a, et il y a des gens sincèrement qui se mettent pas du tout en danger,
ouais.
Mais je crois beaucoup plus à une approche par la méthode, le systématisme, la répétition, la discipline, et en fait, et c'est ça qui va en plus te motiver.
C'est complètement mon approche de travail. La seule chose qui me manque aujourd'hui, c'est la discipline au niveau de l'écriture. Trois quarts de mon temps, il est investi de manière un peu passive, proactive. C'est-à-dire que je me balade sur Internet, je vais un peu sur Twitter, je lis des articles, je réfléchis à des trucs, je regarde des vidéos et je sais que ça me sert. Parce que c'est comme ça que je me nourris. J'ai bien conscience que mon travail demande énormément de culture dans mes sujets, donc je me nourris de cette manière. Maintenant, c'est difficile de faire la différence entre ce qui relève du divertissement et ce qui relève du travail, mais c'est mon travail de le différencier. Ce qui me manque, une fois que j'ai acquis cette culture, que j'ai toutes ces réflexions, etc., c'est de me forcer à écrire. Donc je le fais de plus en plus, où je me mets des créneaux de 4 heures, où je vais écrire pendant 4 heures, peu importe. C'est souvent extrêmement douloureux, parce que à chaque fois, je me dis, je suis pas sûr que ce soit la bonne énergie, je suis pas sûr que ce que je suis en train d'écrire, c'est vraiment très bien, je suis pas sûr que ce soit la version finale, mais j'écris quand même. Et je me rends compte qu'en me forçant, ben en 4 heures, tu abats un truc hyper conséquent. Peut-être que ce ne sera pas la version finale, mais tu as fait un pas de géant en avant dans ta quête de faire cette vidéo, de faire ce travail-là.
C'est la théorie de beaucoup de gens qui écrivent de façon vraiment très régulière. Tu vois, tu as des auteurs qui te shippent un livre par an, c'est depuis des années et des années, et qui ne te font jamais faux bond, etc., etc. Mais en fait, chaque fois que tu discutes avec eux, te disent, je m'astreins tous les jours à écrire une page. Et j'en jette à la fin. Mais c'est la seule façon que j'ai d'être sûr de tenir mon rythme où je te release un nouveau bouquin tous les ans.
Ouais. Ah bah 100%. 100%. Mais c'est ce qui est très difficile dans la créativité. C'est qu'à la fois, il y a un truc qui n'est pas tout à fait palpable. C'est un truc qui n'existe que dans ta tête et qui, avant d'être couché sur papier, il passe par plein de neurones différents, il y a plein de connexions différentes, et à la fois il faut que tu t'appliques la rigueur de n'importe quel entrepreneur, de n'importe quel travail, en fait. C'est ça qui est très difficile. Mais donc, tu peux le faire, quel que soit ton domaine, quelle que soit ton activité, en fait.
Et je pense que il est plus intéressant de recruter des gens qui sont capables de ce niveau de violence avec eux-mêmes,
ouais,
que de recruter des gens hyper talentueux, capables de beaucoup travailler, mais qui vont fatalement, à un moment ou à un autre, en avoir marre, envie de changer de sujet, se fatiguer, se désespérer,
ouais,
et qui sont vraiment dans le carburant, c'est la récompense immédiate. J'ai beaucoup vu ça sur les populations de sales. Les vendeurs, ils sont capables de se donner beaucoup, d'être beaucoup dans la quantité, d'être beaucoup dans l'exagération, etc., etc. Mais s'ils n'ont pas le sucre de la récompense, s'ils ne closent pas des deals assez vite, ils se désespèrent très vite. Et moi, les meilleurs vendeurs que j'ai jamais vus, dans plein d'industries différentes, enfin, autour du numérique, qui vont du logiciel au service, à la création, etc. C'est les mecs qui sont réguliers.
Ouais.
Les mecs qui, tous les jours, ont décidé d'adresser 15 leads qualifiés, pas plus. Ils n'en feront pas 13, ils n'en feront pas 20, mais les 15, ils sont hyper qualifiés, ils ont lu des trucs sur eux, ils vont essayer des voies d'approche. Il y a des jours où ça va passer, il y a des jours où ça ne va pas passer, etc. Mais en fait, ce qui a toujours fonctionné chez nos meilleurs vendeurs, dans toutes les boîtes où j'ai eu, c'est ceux qui étaient les plus organisés et les plus systématiques dans leur process. Ce n'étaient pas ceux qui faisaient le plus de bruit et qui allaient sonner la cloche pour closer un deal.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et ça me fait penser au fait que la personne qui travaille de manière plus régulière ne sera pas nécessairement meilleure que la personne qui travaille ponctuellement, mais qui semble avoir un don, qui est vraiment exceptionnel dans son taf. En revanche, si vous considérez que vous êtes extrêmement fort, et qu'en plus de ça, vous avez la régularité, vous avez la discipline, ben là vous êtes une bête en fait. Et c'est possible. C'est possible d'avoir les deux. Ça demande de se faire un peu de mal.
La dernière fois, Manuel, tu me parlais de Richard Branson parce que je te demandais de me citer un exemple d'une personne qui ne travaille pas de façon acharnée et qui est milliardaire, parce que je te disais, ben, j'en connais pas moi, des milliardaires qui ont très très bien réussi et qui n'ont pas bossé de façon fou furieuse comme on peut le voir avec un Steve Jobs, avec un Elon Musk, avec des gens comme ça. Et en regardant Richard Branson, il met en avant la façon de travailler qui serait 3 jours par semaine, de se dire 3 jours par semaine je suis à fond dans un sujet, je défonce un sujet, et puis le reste du temps j'apprends, je passe du temps pour moi, je lis, je fais d'autres choses. Toi Manuel, depuis tout à l'heure tu as ce discours que je trouve très sain, très, très, très super, mais quand je te connais en perso, tu dors 4-5 heures par nuit max, tu prends 10 jours de vacances dans l'année, et encore, c'est dans les bonnes années. Le reste du temps, toi, ton objectif, quand je t'observe de l'extérieur, c'est quand même d'être très régulier et d'avoir beaucoup de routines. Est-ce que ces routines, c'est pas justement du travail caché? Et est-ce que ça participe vraiment à...
Je vais répondre parce que je suis Emmanuel Diaz. Je crois
Bonjour Emmanuel.
Ce n'est pas du travail caché, je crois que c'est quasiment de la gamification, que en fait tu peux atteindre une satisfaction personnelle quand tu es aussi sérieux dans le travail que dans le fait d'obtenir tes 5, 6, 7, 8 heures de sommeil toutes les nuits. Et par exemple, Manuel, il prend le temps de faire des pâtés en croûte lui-même.
C'est vrai.
Ce qui, je crois, s'oppose quand même pas mal à la culture des hustlers. C'est-à-dire que Manuel, moi, quand je l'ai rencontré, j'avais l'impression que ça allait être quelqu'un de surbooké, d'inaccessible. Il n'allait jamais avoir le temps même de me parler. Et en fait, c'est tout l'inverse. Je sais que la dernière fois, j'avais une question. Je voulais que tu lises mon script. Il était 23h. Je lui ai envoyé, il l'a fait, tu vois, il a pris 20 minutes. Donc, pour moi, Manuel rentre pas du tout dans cette case-là. Il travaille beaucoup, mais c'est possible de travailler beaucoup tout en se préservant, tout en prenant du temps pour soi, tout en prenant du temps pour les autres. Donc, maintenant, je laisse la réponse de Manuel, mais pour moi, tu rentres pas dans cette case-là.
En fait, je mets beaucoup de rigueur presque excessive dans ce que je fais. Et effectivement, je travaille. Mais c'est pour mieux protéger les zones où je veux pas qu'on m'emmerde. Mmh. Et c'est aussi pour créer des moments où je vais avoir du temps pour des sujets qui vont être imprévisibles ou des sujets que j'ai envie de creuser ou des sujets sur lesquels je sais que qualitativement, ça vaut le coup d'y passer du temps. Et là, pour le coup, on cherche pas du tout de la productivité. On cherche justement à passer un bon moment. On n'est pas du tout dans l'aspect productif. Mais pour ce... payer, entre guillemets, ces moments-là, il faut être extrêmement rigoureux sur le reste. Donc, c'est pour ça que je m'emploie à être le plus rigoureux possible sur mon agenda de travail classique.
Et t'es pas que rigoureux dans le travail, t'es aussi rigoureux, c'est ce que je voulais dire, dans le temps libre. Tu vas pas, quand tu as une soirée libre, la passer à binge-watcher la dernière série Netflix. Non. J'ai l'impression que souvent tu fais en sorte que ton temps libre ce soit un temps de qualité, des choses qui te font vraiment plaisir et qui t'épanouissent.
Mais ça, comment c'est hyper on fait important. Quand... Ouais, mais enfin, là je pense à une personne qui nous écoute qui est passionnée par un tout nouveau truc, qui veut absolument le faire le plus vite possible, le mettre sur le marché ou en place le plus vite possible. Qu'est-ce qu'on peut conseiller du coup pour réussir à conserver des temps libres où tu ne participes pas à ton activité qui est quand même très associée au travail, même si ce n'est pas encore ton travail parce que ça n'a pas encore pété, ça ne rapporte pas de la thune, etc. Mais pour autant, réussir à faire comme Manuel, une soirée où tu fais ton pâté en croûte sans pour autant avoir l'iPad à côté où tu vas prendre toutes les notes parce qu'elle te passe par la tête et que tu as ta mère à côté avec qui tu aurais pu passer un temps qualitatif, quoi.
Bah, c'est très simple à dire, beaucoup plus difficile à faire, mais tu te donnes des horaires, tout simplement. Et en fait, tu te dis que moi, c'est ce que je fais maintenant, c'est que le matin, j'ai pas le droit d'avoir accès à mon téléphone. Enfin, j'ai pas le droit d'avoir accès aux applications qui me boufferaient mon énergie et du temps sur mon téléphone. Donc, la seule chose que je peux foutre, c'est travailler, en fait. Donc, j'ai mes horaires de travail le matin, j'ai mes horaires de travail l'après-midi. Le reste du temps, je suis en temps libre. Ça m'empêche pas d'avoir des pensées, mais ça te prend une minute de les noter. Et après, je passe à autre chose.
Mais est-ce que tu penses pas qu'on a ce truc-là parce que justement, c'est maintenant acquis, ok, ça fait 10 ans qu'on bosse là-dedans et tout ça. Au début, je me souviens, Léo, on pouvait se réveiller en pleine nuit et tourner une vidéo, on pouvait se réveiller le matin, être en calbut et lancer un live Twitch et oublier le truc. Enfin, non, c'était même pas Twitch pas à l'époque.
Je faisais pas ça, moi. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais le problème, c'est que ce truc-là, comme le disait Manuel, c'est pas une stratégie long terme. C'est un loisir. C'est pas un taf. Donc tu peux le faire au début si ça t'amuse et que t'as envie de tester le modèle. Mais au bout d'un moment, je t'assure que tu feras pas ça pendant 10 ans. Tu vas pas pendant 10 ans te réveiller la nuit parce que t'as une idée et commencer à tourner. Si tu te réveilles la nuit parce que t'as une idée, tu la notes sur un bloc-notes et t'attends demain.
Regarde ton feed YouTube. Il est peuplé de « je fais une pause »,« tel ouais. studio s'est
c'est
terminé
».«
J'arrête YouTube ». ».«
J'arrête YouTube ». Des chaînes avec énormément d'abonnés qui érasent tout leur contenu. Bref, il est peuplé de gens qui donnent à voir au monde les symptômes de leurs excès.
Ouais.
Et si on veut que cette industrie soit un peu durable, il faut qu'elle grandisse dans la façon d'exercer ce métier. Et il appartient au talent d'être talentueux et au créateur d'être créatif. S'ils peuvent avoir les deux dans la même personne, c'est pas mal. Et il appartient à l'écosystème autour de aussi leur dire des trucs qui ne sont pas infantilisants. D'arrêter de céder à tous leurs caprices. D'arrêter de faire en sorte de martyriser des équipes de 10, 15 personnes de prod pour qu'un truc qui n'était pas prévu la veille devienne possible le lendemain.
Ouais.
Parce que ça, de toute façon, ça nourrit une espèce de grand tout qui s'auto-détruit. Parce que ça n'est pas durable, en fait. Et je pense que si on veut que notre industrie soit sérieuse, il faut et durable, et puisqu'elle a un impact, puisque on sait, puisque c'est mesuré à quel point le travail des créateurs de contenu a de l'impact pour les marques avec lesquelles ils collaborent, pour la communauté qu'ils agrègent en termes d'intérêt et d'affinité, etc., etc. Bah, il faut mettre en place des méthodes de travail qui sont durables. Mmh. Et il faut arrêter de vendre le mythe de la facilité. Et je pense que c'est vraiment extrêmement important. Et ça m'agace profondément. Et en même temps, ça m'attriste pour certains talents de voir qu'ils sont, ils sortent cabossés, vraiment endommagés de périodes qui auraient pu être hyper agréables si elles avaient été bien gérées, tant sur un plan business que sur un plan humain. Parce qu'il y a aussi des gens qui deviennent des vrais cons.
Oui, on en connaît.
À plein.
C'est ce que je dis tout le temps quand j'ai un jeune qui... parce que je ne fais plus partie des jeunes, malheureusement.
C'est bien de le reconnaître.
Ouais, je sais, je le sais, hein, je le sais. 26 ans, 27 cette année, ça, c'est la fin. C'est ce que je dis tout le temps quand un gamin me demande, me pose des questions sur mon métier. Je dis tout le temps que c'est pas un pur plaisir au moment où je dois travailler. C'est quelque chose qui m'épanouit 100%. Il n'y a rien d'autre que je préférerais faire au monde. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Maintenant, le moment où je dois me poser devant mon ordi pour écrire un truc qui, je sais, va être extrêmement difficile à écrire parce que j'ai beaucoup d'attentes sur ce que je fais et je sais que les gens ont beaucoup d'attentes sur ce que je fais et qu'il y a une marque qui a beaucoup d'attentes sur ce que je fais et que j'ai un agent qui a travaillé là-dessus, etc. C'est pas la même chose que quand j'avais 14 ans, que personne ne m'attendait à part moi-même, et à l'époque, mes standards n'étaient pas extrêmement élevés, c'est un taf. Donc à ce moment-là, ça va être très difficile. Donc oui, c'est pas un plaisir tous les jours. Si je veux que ça puisse continuer à être épanouissant malgré ça, bah, il faut que je me ménage un peu. Il faut que je sois strict, il faut que j'ai un programme, un planning, mais il faut que je me ménage un peu.
Je suis d'accord.
Et c'est toute la différence avec la culture du hustling. Il y a un indicateur qui est très simple pour détecter qu'un discours est toxique, c'est quand il n'est pas du tout nuancé. Que quelqu'un te dise « il faut travailler tout le temps, à chaque heure à laquelle tu peux travailler, il faut pas que tu prennes le temps de te faire à manger parce que c'est du temps de travail en moins », ou que quelqu'un te dise « le travail, on n'a pas besoin, l'important c'est la famille et les amis », les deux n'ont aucune nuance, je crois que les deux sont toxiques. Il y a toujours un juste milieu, il y a toujours quelque chose au centre qui est beaucoup plus sain et qui va vous épanouir.
Comment est-ce que vous gérez quand il y a des périodes qui vous demandent plus de travail en termes d'heures ? Je te donne un exemple avec Manuel, mais Influx maintenant a des super locaux, il y a eu plusieurs étages. À un moment, quand tu arrives dans ces nouveaux locaux, quand il faut essayer de mettre en place tous les nouveaux process, il y a forcément plus d'heures parce que tu continues de vivre de la même manière qu'avant, sauf que tu as de nouveaux enjeux et qu'il faut... Comment tu gères, toi, Manuel, le fait d'avoir des périodes où tu sais que factuellement, tu rentreras pas à 18h chez toi ou à 20h, quoi.
Ben en fait, la réponse est dans la question, en fait. C'est une période. Il y a une date de début, une date de fin. C'est-à-dire que je sais que pendant ce laps de temps-là, il va falloir produire en densité plus de choses plus rapidement pour retrouver un équilibre demain. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas avoir de date de fin à ces périodes-là. Et dans le discours traditionnel du hustling, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Il n'y a aucune forme de fin. C'est comme s'inscrire dans une course et ne pas savoir où est la ligne d'arrivée.
Ouais.
Bah, du coup, ton effort, tu ne sais pas le gérer, tu ne sais pas le ménager. Tu sais même plus pourquoi tu cours au bout d'un moment.
Bah, tu prends jamais de recul sur les choses que tu fais.
Donc, il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait des périodes plus dures que d'autres. Il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait des périodes de rush, etc. Mais il faut qu'il y ait une date de début, une date de fin.
Ok.
Et c'est pas malsain, en fait. C'est même plutôt sain.
Moi, j'ai un problème avec ça. C'est qu'en fait je sors une vidéo le dimanche à 17h et le dimanche à 16h30 je suis encore en train de la monter, donc tout ça pour dire que même après 10 ans à faire ce truc là je n'ai pas du tout masterisé la gestion de mon temps, de mes ressources, etc. Justement parce que c'est toujours très difficile quand je m'y mets, mais justement parce que je vis ça depuis longtemps et surtout sur l'année dernière où vraiment j'étais dans le rush en permanence, là cette année ça va mieux. Justement parce que je l'ai vécu pendant au moins un an, je peux vous dire que je l'aurais pas fait 3 ans.
Ben voilà.
Impensable.
Et puis surtout, il y a un truc qui a quand même beaucoup évolué. On se côtoie quand même depuis un moment maintenant. C'est que tu commences à prévoir.
Oui, oui, un peu.
Voilà.
Un peu. Mais la première chose qui a évolué, c'est le volume.
Oui.
Je fais beaucoup de choses en plus qu'avant, sans avoir perturbé la pertinence de ce que je fais, ce que je croyais pas possible.
Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est que tu te rends compte que quand tu prévois, c'est beaucoup plus agréable.
Bien sûr, ouais.
Et surtout, tu peux te gérer.
Ouais. Bah, j'ai une roadmap, je découvre pas ma vie au jour le jour. Ça arrive encore un peu, mais ça va.
Et après, le troisième élément, c'est que personne ne peut c'est un mythe de penser qu'on se fait tout seul, qu'on va être toujours tout seul, etc. Ouais. C'est faux.
Ouais.
T'as toujours un écosystème autour de toi, à commencer par des trucs tout cons, hein, mais ton comptable, ta banque, les deux fris avec lesquels tu bosses, etc. etc. Bah, en fait, quand tu commences à prévoir les choses, bah, tout devient beaucoup plus fluide pour tout le monde. Donc, non seulement toi, c'est plus agréable, mais en plus, pour les autres autour de toi, tu les mets dans une position où ils vont te rendre un travail qui sera de bien meilleure qualité.
Ouais.
Tu les rends beaucoup plus productifs en étant plus prévisible et en étant aussi plus prévoyant.
Et le cinquième élément, c'est un film.
Oui, c'est possible. C'est sûr même. Un bon film.
Un très bon film.
On le répétera jamais assez, mais pour tout ça, maintenez à jour votre agenda, quoi. Et arrêtez de vous dire, ah, ça, j'y penserai dans deux jours, j'ai pas besoin de le noter dans l'agenda, parce que ce que vous expliquez là, les gars, c'est juste parce que Léo, avant qu'il bosse avec toi, Manuel, il n'avait pas d'agenda.
Ah bah, j'avais pas d'objectif. La seule raison pour laquelle je produis autant aujourd'hui, c'est parce que, de par Manuel, j'ai une deadline. Toujours. Je me retrouve jamais au moment de l'année où je me dis, bah, tiens, là, j'ai pas de deadline. J'ai toujours une deadline. Donc, je suis obligé de travailler. Et là, s'active la loi de Parkinson. Et c'est pour ça que souvent, le dimanche soir, je suis en train de faire un rush pour finir ma vidéo, parce que je sais qu'elle doit sortir à cette date. Si j'avais pas cette date-là, tu pourrais me laisser 3 semaines de plus, je saurais comment les occuper.
Ouais.
À 100%. Mais même tu me laisses 3 mois, je saurais comment les occuper. Je ferai une vidéo peut-être un peu meilleure, pas spécialement nettement meilleure, parce que 3 mois, c'est quand même très long. Normalement, je ne fais pas les documentaires de 7h30. Oui, c'est hyper important d'avoir de la rigueur et d'avoir des deadlines.
Ah voilà, je suis sûr que toutes les mamans rêvent d'avoir le plus bel enfant qui soit.
Mm-hmm.
Simplement, à 9 mois, il faut que ça sorte. Hein. Tu te dis pas, on va prolonger un peu.
Je l'attendais, je me suis dit, ça commence par les mamans, il y en a forcément une qui...
Voilà, il y a des cycles.
On n'est pas sûr.
C'est comme ça.
C'est vrai.
Et donc, bon voilà, on ne le dira jamais assez, mais je pense sincèrement que vous allez beaucoup plus vous rapprocher de vos objectifs, être un humain beaucoup plus épanoui, beaucoup plus agréable à fréquenter et,
ouais.
Beaucoup plus radieux pour les gens qui vous entourent et inspirant si vous vous appliquez d'abord à vous-même beaucoup de discipline. Ça va vous rendre plus cool pour les autres, plus serein, plus calme, plus apaisé.
Vous serez plus inspirant et plus inspiré. Ça, c'est un truc qu'on oublie toujours de dire, mais qui est essentiel. Je prends mon exemple personnel parce que c'est la seule chose que je connais, j'ai jamais bossé dans une boîte. Je sais que je peux sortir une vidéo un mois après les autres sur un produit, un concept, etc. Elle sera meilleure, pas particulièrement parce que je suis meilleur, parce que j'ai pris mon temps, parce que j'ai pris le temps d'y réfléchir, j'ai pris le temps de regarder ce que les autres ont fait. C'est un peu la stratégie Apple. Si tu prends le temps de prendre du recul, de réfléchir aux choses que tu fais, de t'inspirer, de te cultiver, bah, tu seras évidemment meilleur. Si tu es tout le temps la tête dans le guidon, parce qu'il faut que tu travailles, bah, effectivement, tu vas produire un truc très vite. Mais ce sera peut-être très mauvais.
Bah, regardez ma chaîne quand je faisais des unboxings. Hein. J'étais là tous les jours pour vous dire quel câble était dans la boîte, mais il n'y avait pas de grande réflexion derrière, quoi.
En même temps, un unboxing, en général...
C'est vrai, mais regarde, c'est parce que ça participait à ce truc de toujours faire plus, sans réfléchir vraiment à ce que je faisais, quoi, c'est clair.
Bien sûr.
Donc voilà, c'est pas sexy, mais la discipline, ça vaut le coup. La méthode, ça vaut le coup. Et c'est sûrement beaucoup moins attrayant qu'un succès rapide, immédiat... où on vous dit que vous allez faire tant de milliers d'euros le premier mois, etc. etc. Mais je vous garantis que ça marchera beaucoup mieux.
Mais j'aime bien la théorie du Happy Meal versus les haricots verts.
Les épinards.
Les épinards, c'est que c'est simplement le plaisir immédiat versus l'épanouissement long terme. Effectivement, un Happy Meal, sur le moment, ça fait plaisir. Une heure après, tu le regrettes. Les épinards, bon, c'est très bon, mais c'est pas le truc, sur le moment, tu sautes pas au plafond, quoi. À long terme, c'est très bon pour ta santé, c'est très bon pour ton corps et c'est très bon pour l'esprit.
Je me permets de citer Conor McGregor, l'adversaire importe peu, ce qui compte c'est la rigueur et ton entraînement. Et je la trouve très très cool celle-là. Peu importe ce que t'affrontes, si t'as ces deux trucs-là, il n'y a pas de raison que t'y arrives pas.
C'est vrai.
Puis en plus, tu te libères de toutes les formes de regrets, de te dire « Ah, si j'avais su, j'aurais plus fait ci, plus fait ça, j'aurais été plus constant à l'entraînement, etc. etc. » Donc tu te libères de tout un tas de choses aussi, mais ça pourrait être quasiment un autre sujet.
Trop intéressant.
Merci les gars.
Ben merci, la bise.
Trop cool.
Bye bye.
Salut.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.